Le critique de l'opposition péquiste, André Villeneuve, a amené le ministre Laurent Lessard à commenter les propos récents du premier ministre canadien Justin Trudeau.
Du côté du gouvernement fédéral, la réponse peut être meilleure, améliorée, renforcée, parce qu'actuellement, si on ne se tient pas debout, on va avoir de la difficulté.
Monsieur le ministre est insatisfait de la déclaration du premier ministre, M. Justin Trudeau. C'est ce que je dois comprendre, la fin de la réponse?
Je n'ai pas assisté à tout ce qu'il a pu dire au président américain Trump, mais ce qu'on peut dire qu'on a dit au gouvernement fédéral, puis ce qu'on on espère qu'il répète sur toutes les tribunes internationales, que la gestion de l'offre, ce n'est pas négociable. Ça correspond à un modèle familial canadien. Puis s'il ne le dit pas assez fort, bien, je souhaite qu'il le dise haut et fort partout. Donc, parce que la personne qui négocie en avant de nous autres, elle a été assez claire sur son modèle de gestion.
Bien, écoutez, moi, j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce que le ministre compte faire, justement, pour que le premier ministre affirme de façon très claire. L'Ontario a été très clair, hein? Ils ne céderont pas un pouce.
Le Québec et l'Ontario ont toujours fait front commun sur cette question-là. Le premier ministre du Québec a parlé au premier ministre du Canada. J'ai parlé à M. McCauley déjà depuis deux fois. Je l'ai rencontré à Boston. On a réitéré l'importance de le faire au effort. Je le vois jeudi prochain avec l'Union des producteurs agricoles du Québec. Donc, nous réitérons, le Québec va agir puissamment dans toutes les sphères d'activité avec les partenaires que sont l'Union des producteurs agricoles du Québec. Donc, nous avons une stratégie pour visiter les régions ensemble et on va l'améliorer parce qu'on ne se laissera pas faire.
En commission parlementaire, une quarantaine de minutes furent consacrées à ces deux questions de la gestion de l'offre et de l'accord de libre-échange nord-américain. À la défense de la gestion de l'offre, le député d'Huntingdon, Stéphane Billette.
Je pense que c'est un modèle qui a, au cours de ces tout près de 50 ans maintenant, ça va de façon assez rapide quand même, a permis au gouvernement d'économiser beaucoup. Parce que souvent, là, les fermes sont peu subventionnées, ici on a peu de subventions. Je veux dire, si on regarde le Farm Gate aux États-Unis, là, c'est tout près de 76 000 $ US qu'ils reçoivent par ferme en aide financière, donc c'est des montants très importants. En France également, c'est tout près, c'est au-dessus de 50 000, je pense que c'est 55 000 autour de ça qu'ils reçoivent en offre. Mais depuis 70, c'est trois piliers de la gestion de l'offre, que ce soit au niveau de s'assurer d'un équilibre dans la production, s'assurer que l'offre et la demande soient au même niveau, de s'assurer également qu'il y a un contrôle des importations avec des frais d'importation, des frais de douane qui sont très, très élevés. On parle de 200-300 %. Et également une politique qui permet à nos producteurs d'en vivre, de vivre de leur production. Je vais vous dire, le comté d'Huntingdon est le long de la frontière américaine. Lorsqu'on traverse à Malone ou à La Colle, les fermes qu'on voit de l'autre côté, je veux dire, c'est pas le style de ferme qu'on voudrait voir au Québec. On voit des fermes de 1000, 2000 vaches. C'est des modèles de fermes, je pense, qui ont des fluctuations de coûts. C'est très difficile pour eux de pouvoir survivre lorsqu'il y a des crises de lait au niveau de surproduction. Donc, c'est pas un modèle qu'on voudrait voir ici. Puis, la gestion de l'offre, là, c'est 5000 fermes. C'est 5000 fermes au Québec, c'est 14 000 producteurs et productrices. Ça a un impact majeur sur l'occupation du territoire. Comme je l'ai dit, c'est 40 %. Puis, ça occupe notre territoire également. Je suis allé en Arizona. Tu sais, les grosses fermes qu'on parle souvent, je suis allé voir une, Shamrock, aux États-Unis, à Phoenix, en Arizona. Je vais vous dire, Monsieur le ministre, lorsqu'on parle d'occupation du territoire, notre petit modèle de ferme, Shamrock, là, c'est 10 000 vaches. Deux doubles 50 pour tirer les vaches, trois traites par jour, 2500 employés. Et j'avais posé la question, c'est encore une ferme, des propriétaires familiaux. C'est une famille qui possède ça. Et je vais vous dire, on regardait autour, en Arizona, il n'y a plus aucune ferme. Il a dit, on avait le choix, on les a fermées. Où on les a achetés. Fait qu'on voit un petit peu, je pense pas que c'est le modèle qu'on voudrait avoir une ferme par 10 comtés électoraux à la grandeur du Québec. Donc, la gestion d'offres nous a permis que quelqu'un avec une moyenne de 60 vaches environ au Québec peut même bien vivre à ce moment-là. Donc, c'est un modèle. Puis, je vais vous dire, j'en rencontre souvent les Américains, on fait l'envie, surtout ceux du Nord, ceux de la Californie, de l'Arizona, les méga-fermes, je pense pas qu'ils en font l'envie parce qu'ils ont un modèle quand même qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent engendrer avec une réduction des coûts fixes. Ils peuvent, excusez-moi le terme, ils peuvent complètement anéantir les autres. Shamrock, là, vous donnez une idée, là, ça rentre en foin, M. le ministre, et l'usine est au bout de la ligne. Ça sort en crème glacée. Fait que vous voyez, là, c'est dans une chaîne, c'est un morceau. C'est un modèle, je vais dire, plusieurs, qui est souvent contesté. En Suisse, ils ont enlevé le système de gestion de l'offre. En Nouvelle-Zélande ou en Australie, je pense qu'ils payent encore 11 cents le litre, les consommateurs. Ils n'ont même pas terminé encore de rembourser le système en tant que tel. Et je vais vous dire, oui, la menace vient du Sud, mais depuis que j'étais tout petit, monsieur, mon père, c'était un producteur agricole, également commerçant de machinerie agricole. Il me disait, ça va être dur dans les prochaines années, le GATT. On entendait parler du GATT. C'était au début, il y a peut-être une trentaine d'années. C'était les mots qu'on entendait. Le GATT, je ne savais rien de ce que ça voulait dire, mais c'était les premières embûches, les premiers faits saillants qu'on pouvait dire qu'il y avait une menace sur la gestion de l'offre. Puis ça a suivi par la suite, vous étiez le ministre de l'Agriculture, peut-être pas dans Doha en 2001, dans le début des années 2000, mais ça s'est poursuivi. Vous étiez là, je pense, quand il y a eu le texte de Faulkner, la quatrième version, qui voulait faire descendre les droits douaniers de 70 %. Ça n'a pas passé, je pense que c'est une bonne chose parce que ça préserve, mais 2013 également, on en a parlé tantôt de l'accord Canada-Europe. Là, quand même, c'est 2 %. Fait que c'est une première ouverture qu'il y a eu au niveau de ça. On a eu le Transpacifique également en 2015, mais je pense qu'il n'en reste plus grand-chose. Mais je vais vous dire, la menace du Sud également, c'est l'ALENA. On a parlé de 40 % des productions, mais il y a l'autre 60 % également. L'autre 60 % là, exemple, là, c'est les producteurs de céréales chez nous. C'est les maraîchers dans le comté de Huntingdon, dans les jardins de Napierville, qui ont une expertise en exportation qui est devenue des joueurs majeurs. Ils ont développé une expertise vers les États-Unis. Et tout ça grâce à l'ALENA.
Et le ministre Laurent Lessard de poursuivre à propos de l'ALENA. Il croit que le président américain Donald Trump est en train de se faire rappeler à l'ordre par le secteur agroalimentaire des États-Unis.
C'est intéressant de voir ce que les Américains pensent de leur président. Alors donc, le 26 avril, quand même, le président de l'American Soybean Association, M. Moore, disait « Il n'y a absolument rien de bon dans l'idée d'amorcer un processus de retrait de l'ALENA. » Le président du National Pork Producers Council, M. Maskoff, lui disait « L'ALENA a été extrêmement profitable de la filière porcine américaine et a pressé l'administration Trump d'abandonner tout plan d'y mettre un terme. » Il a également indiqué le retour aux tarifs pré-ALENA aurait des répercussions financières dévastatrices sur les éleveurs de porc américains. Ça, c'est les Américains qui pensent ça dans la filière de porc. Une déclaration commune du U.S. Wheat Associates et la National Association of Wheat Growers se sont dit alarmés par les nouvelles selon lesquelles l'administration Trump songerait à retirer le pays de l'accord. Ils ont déclaré « c'est l'ALENA qui nous a ouvert des débouchés ». Sur les marchés lucratifs et florissants du Mexique, l'abrogation de l'accord porterait un coup dur à l'industrie américaine du blé et à ses clients mexicains. Le président, donc, du Corn Growers Association, M. Spurlock, lui a dit que le retrait de l'accord serait catastrophique pour le secteur agricole américain. Nous ne pouvons pas entraver les échanges avec deux de nos principaux partenaires et alliés commerciaux. Les agriculteurs et les éleveurs américains ne se remettront jamais de cette décision-là. On est toujours aux États-Unis, là. Et le directeur du U.S. Grains Council, M. Slay, a déclaré « Notre marché des graines ne peut pas servir de levier de négociation ». Il a ajouté « Les raisons de moderniser l'ALENA ne manquent pas. Nous sommes généralement d'accord pour le faire, mais aujourd'hui, nous pensions être sur la bonne voie pour avoir des discussions constructives, là, sur la façon de s'y prendre pour parvenir à un accord profitable ». Et là, on voit que M. Trump est en train un peu de changer de discours. Toutefois, sur la négociation, parce que s'il déclenche le retrait, il y a un processus pour le faire. Et s'il se retire de l'entente tripartite Canada, États-Unis et Mexique, il faut se souvenir qu'il existe toujours l'entente Canada-États-Unis, dans laquelle les mêmes secteurs sont protégés avec des mécanismes semblables. Donc, je n'ai pas entendu qu'il voulait se retirer aussi de l'accord Canada-États-Unis qui n'a pas été suspendu, qui est toujours en vigueur et que donc qui nous protégerait quand même. Alors, il faut continuer d'en faire la promotion. Puis, je ne suis pas gêné, au nom de tous mes collègues ici, de défendre ce modèle de gestion-là, qui fait en sorte qu'on produit pour nos besoins intérieurs, on ne fait pas de dumping puis d'exportation. Donc, c'est le modèle qu'on défend en général. Mais les Américains aussi protègent des choses.
Ici Lionel Levac. Je pense que l'on peut parier que les représentants canadiens dans la renégociation de l'ALENA, aidés entre autres par le Québec, vont faire ressortir avec le plus de détails possible toutes les façons, tous les stratagèmes qu'ont les Américains de soutenir leur agriculture. Mais l'argument qui aura probablement le plus de poids sera la démonstration qu'économiquement, les Américains tirent avantage de l'accord nord-américain de libre-échange. À suivre.